Historama, l'histoire d'un jour, aujourd'hui le 22 juin 1815, l'abdication de Napoléon Ier. Le mercredi 21 juin 1815, à 7h du matin, la chaise de poste de Napoléon Ier, qui a quitté Laon une heure avant minuit, contourne au grand galop l'enceinte de Paris et approche de la barrière du Roule, l'actuelle place des Ternes. L'empereur se hâte de gagner l'Élysée, Joseph Fouché est là, tissant sa toile d'intrigue. Le ministre de la police s'est entretenu avec le marquis de Lafayette, qu'il alarme sur la menace d'une dissolution de la Chambre des Pairs. Il considère qu'il vaut mieux renverser le maître plutôt que de le laisser dévorer la représentation nationale. À l'Élysée, Napoléon préside le Conseil des ministres. Dès le début de la réunion, Lazare Carnot lui conseille de se faire offrir les pleins pouvoirs par la Chambre des Pairs. « J'ai besoin pour sauver la patrie, approuve le souverain, d'une dictature temporaire. Je pourrais le saisir, mais il serait utile et plus national qu'elle me fût déférée par les chambres. » Le ministre d'État, Michel de Regnault de Saint-Jean d'Angély, hoche la tête tristement. Il aime l'empereur, mais lui déclare « Je doute que les représentants consentent à seconder les vues de l'empereur. Ils paraissent croire que ce n'est plus lui qui peut sauver la patrie. Je crains qu'un grand sacrifice ne soit nécessaire. » Le souverain répond « La présence de l'ennemi sur le sol de la patrie rendra, j'espère, aux députés le sentiment de leur devoir. La nation les a nommés non pour me renverser, mais pour me soutenir. Je ne les crains point. Quoi qu'ils fassent, je serai toujours l'idole du peuple et de l'armée. Si je disais un mot, ils seraient tous assommés. Me repousser quand je débarquais à Cannes, je l'aurais compris. Mais maintenant, je fais partie de ce que l'ennemi attaque. Je fais donc partie de ce que la France doit défendre. En me livrant, elle se livre elle-même, elle se reconnaît vaincue, elle encourage l'audace du vainqueur. Ce n'est pas la liberté qui me dépose, c'est la peur. Pendant ce temps, la Chambre des Pairs vote une proposition commençant par ces deux articles. Article 1er, la Chambre des représentants déclare que l'indépendance de la nation est menacée. Article 2, la Chambre se déclare en permanence, toute tentative pour la dissoudre est un crime de haute trahison. Quiconque se rendrait coupable de cette tentative serait traître à la patrie et jugé comme tel. Le maréchal Davout, ministre de la guerre, déclare « Le moment d'agir est passé, la résolution des représentants est inconstitutionnelle, mais c'est un fait consommé. Il ne faut pas se flatter dans les circonstances actuelles de refaire un 18 Brumaire. Pour moi, je me refuserai d'en être l'instrument. L'empereur semble touché, il affirme « J'abdiquerai s'il le faut ». Le 22 juin, à la Chambre des Pairs, Lafayette lance à Lucien Bonaparte « Dites à votre frère de nous envoyer son abdication, sans quoi nous lui enverrons sa déchéance. » La Chambre donne une heure à l'empereur pour abdiquer. Devant l'Élysée, dès l'aube, une foule considérable hurle « Vive l'empereur !» Il est midi et demi lorsque Napoléon dicte à son frère Lucien la proclamation suivante. Français, en commençant la guerre pour soutenir l'indépendance nationale, Je comptais sur la réunion de tous les efforts, de toutes les volontés et le concours de toutes les autorités nationales. J'étais fondé à espérer le succès et j'avais bravé les déclarations des puissances contre moi. Les circonstances me paraissent changées. Je m'offre en sacrifice à la haine des ennemis de la France. Puissent-ils être sincères dans leurs déclarations et n'en avoir réellement voulu qu'à ma personne ? Il faut que Lazare Carnot et Lucien Bonaparte insistent pour que Napoléon ajoute à son acte d'abdication ces deux lignes. Ma vie politique est terminée et je proclame mon fils sous le nom de Napoléon II, empereur des Français. La chambre des pairs se fait tirer l'oreille pour proclamer Napoléon II. Le vaincu précise à la délégation venue le remercier pour son sacrifice « Je n'ai abdiqué qu'en faveur de mon fils. Si les chambres ne le proclament pas, mon abdication sera nulle. D'après la marche que l'on prend, on ramènera les Bourbons. Vous verserez bientôt des larmes de sang. » À la chambre, il est près de 21h lorsque Lucien Bonaparte monte à la tribune. Il s'agit ici d'éviter la guerre civile, de savoir si la France est une nation indépendante, une nation libre. L'empereur est mort, vive l'empereur. Il ne peut y avoir d'intervalle entre l'empereur qui meurt ou qui abdique et son successeur. Telle est la maxime sur laquelle repose une monarchie constitutionnelle. Toute interruption est anarchie. Je demande qu'en conformité avec l'acte constitutionnel, la Chambre des Pairs, par un mouvement spontané et unanime, déclare devant le peuple français et les étrangers qu'elle reconnaît Napoléon II comme empereur des Français. J'en donne le premier exemple et je lui jure fidélité. Le général de Labédoyère, qui a offert son régiment à l'empereur aux portes de Grenoble lors de son retour de l'île d'Elbe, bondit à la tribune et interpelle les parlementaires. Qui s'oppose à cette résolution ? Des individus constants à adorer le pouvoir et qui savent abandonner un monarque avec autant d'habileté qu'ils en montreraient à le flatter. Je les ai vus autour du trône, au pied du souverain heureux. Ils s'en éloignent quand il est dans le malheur. Ils repoussent aussi Napoléon II parce qu'ils sont pressés de recevoir la loi des étrangers à qui déjà ils donnent le titre d'allié, d'ami peut-être. Le tumulte est effroyable au palais du Luxembourg. Les pairs se déchaînent et le jeune général est arraché à la tribune. Le 25 juin, par les fenêtres de l'Élysée, l'empereur voit les milliers de Parisiens qui emplissent la rue du Faubourg-Saint-Honoré. Des cris montent « Vive l'empereur, ne nous abandonnez pas !» Le souverain déchu gagne la Malmaison pour y attendre les passeports qui lui permettront de se rendre en Amérique. Craignant que la foule ne s'oppose à son départ, il fait sortir son carrosse par la grande entrée, tandis qu'il traverse à pied le jardin. À la porte donnant sur les Champs-Élysées, attend la voiture du grand maréchal Bertrand. Le soleil est éclatant. Napoléon remonte pour la dernière fois les Champs-Élysées. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver Emmanuel pour la chronique Un jour, trois livres. C'est le groupe Trust qui nous accompagne une fois n'est pas coutume en chanson. Nous écoutons l'un de ses plus grands succès, Antisocial.
pays, ta pire tombale. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. Antisociable, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, perdons les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Écraser des gens est devenu ton passe-temps. En les éclaboussant, tu deviens gênant. Dans ton désespoir, il reste un peu d'espoir. Celui de voir les gens s'emparer d'un bâtard. Mais cesse de faire le point, serre plus dans les poings. Bouge de ta retraite, ta conduite est trop parfaite. Relève la gueule, je suis là, t'es pas seul. Ceux qui hier t'enviaient, aujourd'hui te jugeraient. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, perdons les années de sévice. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Pour payer ta pire tombale. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balle. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. L'antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. L'antisocial, bientôt les années de sévice. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Antisocial.
Retrouvons pour trois livres, en fait un livre et deux autres qui sont le tome 1 et le tome 2. Commençons par le premier, L'écho des promesses, de Mélanie Levenson aux éditions Fleuve. À Paris en 1940, Christian, le fils d'un banquier, est amoureux de Judith, une jeune étudiante juive. Le couple envisage de s'enfuir, il lui faut donc faire des faux papiers. Ce qu'il advient en 1943. Mais Judith disparaît sans laisser de traces. En 1982, à Montréal, Lika Grunberg, sur le point de décéder, confesse à sa fille Jacobina qu'elle a une demi-sœur et que dans les tumultes de la guerre, il a perdu tout contact, l'ayant en quelque sorte dans son esprit abandonné. Il faut que Jacobina la retrouve coûte que coûte. En 2006, à Washington, Béatrice, en poste à la Banque mondiale, rencontre une vieille dame, Jacobina et va l'aider à tenir sa promesse. L'écho des promesses de Mélanie Levenson aux éditions Fleuve. Nous allons maintenant voir Le mystère de Soline, tome 1, Au-delà du temps, tome 2, Le vallon des loups, de Marie-Bernadette Dupuis aux éditions Calmann-Lévy. Dans les Alpes de Haute-Savoie, Soline, pisteuse, secouriste et maître chien à Valence, a quitté ses parents adoptifs pour se consacrer à son travail. Elle a un don particulier, avoir des visions de personnes en péril. Elle a aussi des flashbacks à propos d'une certaine Louise Fabre, âgée de 12 ans, victime d'une terrible catastrophe naturelle à la fin du XIXe siècle. Or, une mystérieuse personne tente d'éloigner de Soline tous ceux qu'il aime, et cela en allant jusqu'au meurtre, y compris d'un policier. En fait, tout est lié à l'accident dont elle a été victime dans sa petite enfance, l'ayant laissée sans souvenir de ses origines. Or, de terribles cauchemars lui montrent des visions d'horreur, avec un assassin qui rôde toujours auprès d'elle. Le mystère Soline, tome 1, Au-delà du temps, tome 2, Le vallon des loups, de Marie-Bernadette Dupuis, aux éditions Calmann-Lévy.
Merci à Emmanuel pour sa chronique littéraire. Nous la retrouverons prochainement dans cette émission et nous nous séparons avec le groupe Trust et Police Milice. Merci à Lucas qui a réalisé cette émission. Je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine pour une nouvelle narration historique. Thank you.